SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Je parle à Françoise Giroux, qui a été script girl, directrice de rédaction à Elle, cofondatrice de l'Express, secrétaire d'État à la culture, présidente d'honneur de l'Action internationale contre la faim, membre du Conseil de l'Ordre des arts et des lettres, éditorialiste du Nouvel Observateur et écrivain. Françoise Giroux, bonjour et un très beau parcours, n'est-ce pas?
Un beau parcours surtout.
Alors expliquez-nous un petit peu, comment est-ce que quelqu'un peut avoir une carrière si variée et réussir dans chacune des branches?
Écoutez, je ne sais pas si j'ai réussi dans chacune des branches, mais je vous disais un long parcours parce qu'il faut toujours voir tout cela sur la distance, naturellement. Quand vous le racontez comme ça, on a l'impression que j'ai fait un nombre de choses incroyables en l'espace de 5 ans. Ce n'est pas le cas. En vérité, j'ai commencé à travailler très très jeune puisque je n'avais pas encore 15 ans. J'étais obligée de travailler parce qu'il y a eu des désastres financiers dans ma famille, donc je n'avais pas le choix. Et ce qui peut apparaître, et qui m'est apparu de moi-même comme un handicap ou comme une catastrophe de n'avoir pas fait d'études, a eu aussi un aspect positif, c'est que j'ai pris les choses en main très 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 tôt. J'ai donc été, comme vous l'avez dit, script girl, puis j'ai été assistant metteur en scène, et puis j'ai commencé à écrire des scénarios, des films, ça c'est dans le droit fil normal d'une carrière cinématographique. Et puis tout ça a été interrompu, pas complètement, mais parti par la guerre. Et ensuite, tout à fait par hasard, les Nazareth, je ne sais pas si le nom me dit quelque chose, c'était des gens très, très importants et puissants dans la presse, m'ont demandé de travailler pour eux. Et là, j'ai pris le goût du journalisme, alors que j'avais une assez forte situation dans le cinéma comme auteur. J'ai eu beaucoup plus de plaisir à faire du journalisme. Et je me suis donc complètement orientée vers le journalisme. Et je n'ai pas abandonné le cinéma, j'ai toujours continué à faire des films, je continue d'ailleurs en ce moment encore, j'en fais pour la télévision. Mais je trouve que c'est un métier beaucoup moins rewarding, beaucoup moins gratifiant que le journalisme quand on le fait dans de bonnes conditions. Et j'ai donc eu cette chance d'intervenir dans le journalisme tout de suite après la guerre, c'est-à-dire à une période où la plupart des journalistes français avaient été collaborateurs des Allemands, donc avaient disparu du métier, où il y avait des vides formidables, où on cherchait des gens qui soient capables de prendre des rédactions en main, et on en a confié une, qui était la rédaction de Elle, de magazine féminin. Voilà, j'ai donc dirigé la rédaction de Elle pendant 7 ans, je crois bien, et ensuite j'ai fondé l'Express avec son accent. Et là, j'y ai passé 20 ans, vous voyez que ce sont des longues périodes. Et enfin, j'y étais plutôt depuis 20 ans lorsque le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, m'a proposé de devenir secrétaire d'État à la condition féminine. Ce qui m'a paru tout à fait saugrenu, parce que je n'ai jamais de ma vie, je n'ai imaginé que je pouvais occuper ce genre de fonction. J'en ai jamais eu l'ambition, j'en ai jamais eu le désir, je ne trouve pas ça du tout mal d'avoir ce désir, mais enfin, il se trouve que ça m'a pu traverser l'esprit. J'ai trouvé ça saugrenu et en même temps intéressant, parce que j'avais le sentiment qu'il y avait beaucoup de choses à faire pour les femmes. C'était une période extrêmement agitée de la vie des femmes, où on manifestait dans les rues pour obtenir le droit à l'avortement, etc. J'ai donc accepté et j'ai été successivement secrétaire d'État à la condition féminine, puis secrétaire d'État à la culture. Voilà. Et puis j'en suis sortie après 3 ans et j'ai repris des occupations plus paisible, c'est-à-dire que j'ai commencé à écrire j'avais écrit des livres avant, mais tout de même, là, je me suis mise à écrire des livres et à écrire des films. Et j'écris aussi dans l'Observateur régulièrement pour garder un contact avec le journalisme, qui est mon métier.
Alors là, c'est ce qui me paraît très étonnant, c'est de pouvoir réussir justement dans les arts, c'est-à-dire l'art cinématographique, l'art d'écrire, etc., et puis de réussir aussi dans le journalisme, qui sont quand même vraiment deux
deux approches différentes, deux disciplines totalement différentes.
Vous avez tout à fait raison, sauf que je n'ai pas le sentiment de faire des films ou de faire des livres en artiste. Les artistes sont des créateurs que je respecte beaucoup. Et moi, je fais ce métier en journaliste. Par exemple, quand j'écris un livre, j'en ai fait beaucoup, je veux prendre le lecteur par la main au début et qu'il ne me lâche plus jusqu'à la fin. Et ça, c'est un comportement de journaliste. Je veux que mes récits soient très tendus, de la même manière, je veux que mes films, mes gens ne s'impatientent pas une minute. J'ai une technique de journaliste à l'intérieur de ce que je fais.
Oui, et je crois que la littérature moderne se prête très bien à ça.
J'espère. En tout cas, moi, c'est bien réussi. Mais c'est pour ça que c'est possible. Car pour le reste, vous avez tout à fait raison. Il y a en principe une contradiction entre l'art et le journalisme. Parce que l'objectif n'est pas le même en général. Voilà.
Alors là, j'en viens à ma deuxième question. Dans une de vos citations, vous avez dit que votre oncle de son vivant, aucune femme de sa famille ne travaillerait. Or, vous avez lancé un défi et vous avez gagné.
Oui, vous savez, je n'avais pas le choix. Lui, quand il disait ça, naturellement, il ne pensait pas à moi qui était petite à l'époque, mais il pensait à ses nièces, à la génération de ma mère, disons. Et il avait dit, en effet, moi vivant, jamais une femme de ma famille ne travaillera. Bon, et puis la question ne s'est même pas posée de savoir si on avait envie ou pas de travailler à un moment donné. Et moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne regrette pas du tout ces débuts précoces, parce qu'ils m'ont été très utiles. On a une plasticité, une capacité d'apprendre à cet âge-là qui est tout à fait extraordinaire. Ce que je regrette profondément, c'est n'avoir pas fait d'études, naturellement.
Que vous avez rattrapé autrement.
Un peu, oui, mais j'ai quand même une culture et des connaissances qui sont tout à fait hétéroclites et qui ne sont pas du tout académiques.
Ce qui peut probablement vous aider beaucoup mieux dans la vie courante. Est-ce que les femmes aujourd'hui ont plus de chances de réussir que, disons, il y a 20 ans ou 30 ans?
Ah oui, c'est incomparable. Absolument incomparable. Ce qui s'est passé depuis 20 ans en France est fantastique comme changement dans la vie des femmes. Fantastique. D'ailleurs, se traduit dans les faits. Si vous prenez le nombre de femmes qui ont vraiment fait tomber les forteresses, qui étaient des vraies forteresses, tenues par les hommes. Elles y sont entrées, nombreuses, dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de métiers, un peu partout. Ce n'est pas vous dire qu'elles ont gagné la partie. Car ce qui est vrai pour des femmes très dynamiques, très agressives, très résolues à faire leur place et leur trou, ne l'est pas du tout pour les autres. Ça reste un problème pour une femme relativement modeste dans ses ambitions, elle est sûre d'être toujours moins bien traitée qu'un homme.
Justement, ayant parlé à deux autres écrivains, une philosophe, j'avais l'impression qu'il y avait une certaine inquiétude vis-à-vis du mouvement féministe en France pour l'avenir.
Pour être tout à fait honnête, il n'y a pas de mouvement féministe en France. Je ne vois pas qui aujourd'hui pourrait dire qu'il représente un mouvement féministe en France. Il y a quelque chose qui est important. Je crois qu'on ne pourrait pas revenir en arrière sans qu'il y ait immédiatement une mobilisation des femmes sur un certain nombre de points. Ça peut aussi bien être l'avortement que des problèmes de droit de travail, etc. Les femmes sont très vigilantes, font très attention et sont très attachées à ce qu'elles ont acquis. Mais il n'y a pas de mouvement dynamique en France concernant les femmes. Il faut voir les choses comme elles sont.
Oui, justement, on a dit que les femmes, disons, entre 30 et 40 ans, soit avaient participé à la lutte, soit étaient au premier rang. Donc, elles sont très conscientes de ça. Mais ce sont des très jeunes qui semblent ne pas se soucier de ce qui arrive et prendre plus ou moins ses acquis comme un fait acquis, c'est-à-dire ne craignant pas qu'ils puissent un jour être retirés.
Oui, mais ça, c'est dans l'ordre des choses. Les générations passent et il ne faut pas regarder toujours en arrière avec son propre âge et ses propres problèmes. Les jeunes femmes d'aujourd'hui n'ont pas les problèmes que nous avons eus. Ben, c'est très bien comme ça. Mais je crois qu'elles n'accepteraient pas du tout qu'on leur retire quoi que ce soit. Simplement, elles n'ont pas peur de le perdre, en effet. Mais elles n'accepteraient pas qu'on le retire et je crois que personne ne songe à le retirer. Bien qu'il y ait une certaine inquiétude à avoir, non pas en France spécialement, mais sur l'ensemble du monde, sur le problème de l'avortement. À mon avis, ça risque de très mal tourner. J'ai vu ce matin que les Américains à la Cour suprême avaient encore remis
sa décision. C'est une décision très difficile à prendre, probablement pour des raisons politiques. Là, il y a quelque chose qui est mondial.
Je parle à Françoise Giroud, qui nous parle justement des mouvements féministes et aussi en ce moment de la remise en question d'un des droits acquis par les femmes, le droit à l'avortement, qui est en ce moment en cours de décision à la Cour suprême américaine. Alors Françoise Giroud, que représente à votre avis cette remise en question du droit à l'avortement?
Je crois qu'elle est tout à fait normale parce que le balancier a été très loin dans l'autre sens, en particulier aux États-Unis. Je ne sais pas exactement quels sont les droits des femmes, mais je crois qu'on peut avorter jusqu'à 24 semaines. Je crois qu'il y a une sorte, en plus de... Vraiment, c'est devenu un commerce extraordinaire. Ça a été très, très loin. Et moi, je ne suis pas pour que les choses aillent aussi loin. Je trouve que la loi française, à cet égard, est bonne. Elle est mesurée. Et en même temps, elle accorde aux femmes tous les droits nécessaires. Et quand le balancier va très loin, il revient toujours en arrière.
Oui, il semble que dans beaucoup de domaines, l'Amérique a eu une attitude outrancière, où les lois ont été outrancières, où les exigences ont été outrancières. En France, par contre, la femme n'a jamais eu le sentiment qu'elle était totalement sans pouvoir, dans le sens, peut-être les lois n'y étaient pas, mais elle avait d'autres pouvoirs. Est-ce qu'en France, au contraire, même s'il y a un changement en Amérique, est-ce que la France sera affectée?
J'espère que non, je crois que non. Franchement, je serais très étonnée qu'il se passe quelque chose en France de ce côté-là. Et la France, comme vous le dites, est un pays en général mesuré, sceptique, et avec les inconvénients, les avantages du scepticisme. Et les avantages, c'est la mesure. Et je serais très étonnée qu'on revienne là-dessus. Mais enfin, c'est dans l'air comme ça. Mais c'est quand même très, très, très dangereux. Et là-dessus, je crois que les femmes seraient intraitables. Intraitables.
Est-ce que vous pensez là, de façon générale, qu'il y a un nouveau conservatisme dans le monde occidental, dans le sens que un retour peut-être à certaines valeurs appelées traditionnelles pour différentes raisons, simplement que la population est en mûrissement, peut-être qu'il y a moins d'enfants, peut-être aussi que les conditions de travail et de vie sont plus dures, ou simplement parce qu'on s'est un petit peu perdu avec les excès de l'autre côté.
Il y a probablement une forme de conservatisme. Je ne sais pas s'il faut appeler ça du conservatisme. Il y a beaucoup d'éléments dans votre question, n'est-ce pas? Il y a d'une part quelque chose qui s'est passé politiquement et que j'appellerais d'une façon un peu sommaire et brutale la fin du marxisme. C'est-à-dire d'on ne sait pas quel espoir vague d'une société où tout irait autrement, où tout serait différent et en vertu duquel on jugeait tous les actes et tous les comportements. Ça, c'est terminé. Alors, du fait que c'est terminé, les gens se sont repliés sur la vie individuelle. Et c'est surtout ça, ce n'est pas du conservatisme. Il y a un repli sur la vie individuelle, sur les plaisirs individuels, sur les valeurs individuelles, et il y a un détachement des valeurs collectives. Ça, c'est très net.
Oui, nous trouvons ça en Australie, qu'il y a, de la part de la majorité de la population, un besoin de revenir à l'idée d'une responsabilité individuelle, à l'idée aussi qu'un gouvernement qui fait ingérence dans les affaires de l'individu n'est pas souhaitable, à l'idée aussi qu'un étatisme dans certaines institutions comme l'éducation et le marché, etc., est franchement non désirable. Donc c'est une nouvelle ère d'individualisme. C'est un mot que j'ai entendu dire, dont j'ai entendu parler à plusieurs reprises.
Oui, c'est évident. Ça, nous sommes entrés, en tout cas dans ce qu'on appelle l'Occident, et en quoi l'Australie est incluse, nous sommes entrés dans une ère d'individualisme et de repli de l'individu sur lui-même, sur une valeur qui partout en haut, ce qui est la famille, et ça va ensemble. Cela dit, il faut bien voir que le fardeau de la responsabilité individuelle est quelque chose de très lourd. Quand on ne peut pas accuser quelqu'un d'être responsable. Pendant des années, ici, on a accusé la société. C'était la faute de la société. Quand vous ne pouvez plus accuser quelqu'un, alors la tendance est aussi peut-être à un retour vers certaines valeurs religieuses que l'on voit en effet refleurir.
Oui, il y a une restructuration des valeurs en général. La famille, on parle justement de la famille, elle a été menacée ou tout du moins accusée de beaucoup de choses pendant une certaine période et effectivement elle est à la hausse maintenant.
Oui, ça va avec le repli sur le foyer, sur le foyer, puisque la notion de foyer a beaucoup changé maintenant. Il y a quand même énormément de divorces, en tout cas en France. Mais enfin, sur les siens. On est replié sur les siens.
Françoise Giroud, pour revenir à votre carrière et à votre parcours, après avoir fait tout ça, où allez-vous maintenant?
Ah, écoutez, je reste tranquille. Maintenant, j'écris tranquillement. En ce moment, je fais une série de 3 films sur Isabelle Eberhardt. C'est un énorme travail. Et voilà, je suis très contente comme ça.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.